Мой Даниил, мой Даниил, мой Даниил, понехо. Gott nicht sorgen, sei was von dein Kind sind der fremd geworden. Ich gedenke nicht mehr dit Philipp. Ich gedenke nicht mehr dit Philipp. Ich gedenke nicht mehr dit Philipp. Moi Dani, moi Dani. Мой Даниил,
bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un immense poète, un poète israélien, qui est, hélas, quasiment totalement méconnu en France. J'ai intitulé cette émission « La Vigie de Jérusalem ». Yehuda Mirhai était un sage. Un sage parmi ces sages que l'on croisait parfois à Jérusalem. Il avait le poids de cette ville en lui, cette ville qu'il appelait la ville au couteau, jouant sur le terme hébreu qui signifie à la fois unité et couteau. Cette ville qui est une sorte de plaie au flanc saignant de l'histoire. Lui n'avait pas oublié Jérusalem. Il est certainement actuellement le poète juif le plus traduit depuis tout simplement le roi David. Il est traduit en plus de 40-50 langues. Il n'était pas né en Israël. Il était né dans la terre des bourreaux. Et avec la langue des bourreaux, sa langue maternelle était l'allemand. Il était né à Würzburg, en Allemagne, en 1924. Il fut élevé dans une famille religieuse qui émigra en Israël assez tôt, en 1935. Une de ces rares familles allemandes qui avaient compris la montée des périls et l'arrivée d'Hitler. Yehuda Mirhai termina ses études supérieures dans des écoles religieuses. Il servit dans la Légion juive de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut donc aussi de la génération du Palmar, qui fut l'armée de libération juive. Il combattit durant la guerre d'indépendance en 1948, mais aussi dans la campagne du Sinaï. Mais de tout cela, il retiendra l'amour des autres, et non pas l'amour des combats. Il avait étudié la littérature et la Bible, et longtemps, il fut professeur. Il est mort après une très longue maladie, comme on dit, n'osant pas prononcer le mot de cancer dans nos civilisations qui mettent tous les problèmes et toutes les douleurs sous le tapis. Il est mort dans sa ville de Jérusalem, mêlant sa poussière à celle des ancêtres. C'était en septembre 2000, il n'y a pas longtemps, le vendredi 22 septembre, à l'automne des saisons, à l'automne de bien des illusions pour ce combattant ardent pour la paix. Il n'avait que 76 ans. Voilà ce qu'il dit de Jérusalem. Jérusalem, sur un toit de la vieille ville, une lessive dans l'ultime lumière du jour. Le drap blanc d'une ennemie, la serviette avec laquelle mon ennemi essuie la sueur de mon front. Dans le ciel de la vieille ville, un cerf-volant. Et au bout du fil, un enfant, que je ne peux pas voir à cause du mur. Nous avons hissé beaucoup de drapeaux. Ils ont hissé beaucoup de drapeaux. Pour nous faire croire qu'ils sont heureux. Pour leur faire croire que nous sommes heureux. Cet extrait d'un recueil qui s'appelle « Frôler la grâce », qui est paru en l'an 2000, et la traduction est de Michel Eckhart-Ilial. Quand je ne la mentionnerai pas, en tant que traduction, Elles seront de moi-même et j'ai opéré à partir de l'anglais parce que il n'y a quasiment pas de traduction de Yuna Mihai, sauf une qui vient de paraître très, très récemment, mais je ne l'avais pas en main à cette époque. Voilà ce qu'il disait de lui. Il le proclamait même. Je suis un fanatique de la paix. Et il refusait de se laisser embaumer dans tout hommage et interdisait que l'on parle de lui comme le poète national d'Israël. Il l'était. Pourtant, il est devenu maintenant. Plusieurs fois, il a failli avoir le prix Nobel. Mais comme Samuel Yosef Agnon l'avait eu en 1966, et que Yitzhak Rabin et Peres l'avaient également eu pour la paix, il fut donc ignoré, car le jury suédois pensait que l'immense humanité de son œuvre appelait plutôt le Nobel de la paix que celui de la littérature. Étrange approche, mais cela est. De sa vie heurtée, son réapprentissage d'une nouvelle langue, il n'a tiré qu'une leçon d'espoir. Il s'est libéré de toutes les contraintes religieuses ou politiques. Hors de tout nationalisme, sa poésie lutte contre la guerre et l'enfermement. Il était totalement un homme de paix et de bonté. S'il vous plaît, ne jetez plus une seule pierre encore. Vous faites remuer ma terre, la sainte, l'entière, l'ouverte terre. Vous la remuez vers la mer. Et la mer ne le veut pas. La mer dit, pas en moi. Yehuda Mihai faisait partie de cette génération qui va découvrir l'Holocauste. Et dans son livre qui s'appelle « Ni de maintenant, ni d'ici », il emporte la brûlure ardente et jamais refermée. Mais ça ne sera pas le sujet fondamental de son œuvre. Il aura peu écrit, en fait, sur l'Holocauste. Car il ne voulait point se renfermer dans cette douleur indicible, laissant d'autres comme Paul Celan se le témoigner. Et puis, sa langue n'était plus l'allemand natal, mais l'hébreu, celui des prophètes, mais aussi celui des gens simples, aussi l'hébreu populaire, celui des quotidiens, des objets, des cadavres de la guerre, mais aussi de la beauté des amoureux et des enfants. Un de ce poème dit la chose suivante, je vous en donne juste un extrait ici. Mon fils a un parfum de paix. Mon fils a un parfum de paix quand je me penche sur lui. Et ce n'est pas que l'odeur du savon. Chacun de nous a été un enfant au parfum de paix. Et dans tout le pays, il n'y a plus un seul moulin à vent qui tourne. Ô pays déchiré comme des vêtements qui ne peuvent plus être rapiécés, et de durs et solitaires ancêtres dans les caveaux, silence mutilé d'enfants, mon fils a un parfum de paix. Le ventre de sa mère lui a promis ce que Dieu ne peut nous promettre. La traduction à nouveau de Michel Edgar Elial, assisté de Beniz Sifer. Yehuda Mihai nous parlait de la société israélienne. Et souvent il en donnait le pouls, il en prenait le pouls par ses prises de position à lui, qui étaient courageuses et généreuses, souvent incomprises d'ailleurs. À son enterrement, le 25 septembre 2000, des milliers de gens se sont levés pour l'accompagner. Lui, le grand poète fondateur de la langue hébraïque moderne. Il avait donné un sens à beaucoup d'existences, et sans doute à la nation elle-même. Tous les officiels étaient là, tous les politiques, tous ceux qui voulaient se faire voir et être vus. Mais cela lui aurait fortement déplu. Lui, l'homme simple qui détestait les honneurs et les mensonges forcément associés à cela. Combien de temps vont-ils poser sur nous des pactes d'angoisse, des traités de désespoir ? Quand Amirai disait cela, il parlait de la plupart des politiques. C'est un poème d'Amirai. Vers le soir, m'éveillant du sommeil, tu ne désireras pas, pépit l'oiseau. Tu ne feras pas d'idole, cria notre oiseau. Les cieux étaient rouges au-dessus de Petah Tikva, comme l'intérieur du corps des hommes. Et moi, qui vais certainement mourir dans une des années à venir, je m'éveille d'une sieste d'après-midi pour la vie éternelle, jusqu'à la nuit tombée. Le mélange de mon père et de ma mère se brise en moi en parties séparées. Je suis aussi heureux qu'une cage vide sans oiseaux. Je suis aussi mélancolique qu'une cage vide sans oiseaux. Mon seul drapeau, ce sont mes habits. Mon seul hymne est mon souffle. Et le premier et le dernier mot est « ici ». Voilà, j'ai essayé de traduire au plus près de la dureté des mots qu'a Mihai, donc... avis pour les prochains traducteurs, il ne faut absolument pas romantiser l'écriture de Mihai. Elle est faite avec des pointes de silex. Il faut la rendre telle que. Elle est simple à rendre, d'ailleurs. Rare, donc, aura été autant la fusion entre un poète et son peuple. Ça nous ramène presque du temps des prophètes. Et Mihai avait le souffle et le verbe rauque et dur pour appeler à tous les exigences de la fraternité humaine. Poète de tous et non pas d'une élite. Il parlait d'espoir et de paix, de l'oppressante et fatale blessure des guerres et des haines. Injuste. Voilà aussi ce qu'était ce poète qui avait pris les armes des mots pour faire apprendre à tous l'amour de ses voisins. Sa poésie ne pouvait se lire et ne s'accomplir que dans l'amour de l'autre. Là où Aragon, qui parfois invoque les mêmes thèmes, sonne totalement et si terriblement creux la plupart du temps, Mihai, bien plus grand poète, sonne lui avec la justesse des pluies sur la face de la terre. La génération des poètes auxquels appartient Yehuda Mihai a remis en question les thèmes et les formes chères à la génération des poètes précédents. Cette génération-là est apparue vraiment sur la scène des lettres israéliennes vers environ 1950. C'était un groupe de jeunes poètes. L'hébreu était leur langue maternelle, mais ils avaient la farouche volonté de désacraliser cette langue en allant vers la langue populaire et l'ironie. Yehuda Mihai est à la tête de cette révolution poétique, un peu le prince de ces poètes. Ce sont plus des idéaux nationaux, mais la condition même de l'homme et ses difficultés d'être qui fournissent leur inspiration. Refusant la rhétorique et les métaphores trop élaborées, ces poètes s'attachent aux images simples, puisées dans la vie quotidienne, à un hébreu parlé, parfois vulgaire, souvent d'une ironie féroce, d'un hébreu qui fait fi du maître et des rimes. Il n'y a pas de rimes dans la poésie de Mihai, enfin la plupart du temps. Yehuda Mihai sera donc en prise avec son temps, avec son peuple. Ses poésies, je vous l'ai dit, auront fondé la littérature israélienne d'aujourd'hui. Et du haut de sa gloire, il aura hurlé ses messages de paix et de lucidité. Il prône en fait une modernisation radicale de la langue poétique dans le sillage de la culture hébraïque. Yehuda Mihai était viscéralement attaché à Jérusalem. Il s'y installe dès 1935, alors que sa famille et lui-même, il était tout jeune enfant, avaient tenté de vivre à Petah Tikva. Mais dans Petah Tikva, il sentait une ville païenne, mais une ville un peu vulgaire. Et il aurait été fasciné, attiré par Jérusalem. Et donc, quelques mois après avoir débarqué, comme la plupart des immigrants, à Petah Tikva, il va vers Jérusalem, qu'il ne quittera plus. Il lit cela. L'air au-dessus de Jérusalem est chargé de prières et de rêves, comme l'air au-dessus des villes industrielles. Il est très difficile à respirer, tellement il est lourd de prières et de rêves. C'est un recueil qui s'appelle « Écologie de Jérusalem » de 1980. Sa vie était en fait centrée sur Jérusalem, la Jérusalem populaire, celle des marchands, celle des troquets, celle des ruelles, celle des petits trafics. Et il entendait, il disait qu'il pouvait entendre au milieu de toutes les palabres les pas des rois, des anciens rois de Jérusalem, qui résonnaient toujours sur les pierres des rues. Voilà un poème qu'il a dédié à l'amour de Jérusalem. S'appelle « L'amour de Jérusalem ». Il y a une rue où l'on ne vend que de la viande rouge, et une rue où l'on ne vend qu'habits et parfums. Il y a des jours où je ne vois qu'êtres jeunes et beaux, et des jours où je ne vois qu'infirmes, aveugles, lépreux, face convulsée, rictus. Ici on construit une maison et là on détruit. Ici on creuse la terre et là on creuse le ciel. Ici on s'assoit et là on marche. Ici on est et là on aime. Mais celui qui aime Jérusalem dans les guides touristiques ou les livres de prière ressemble à celui qui aime une femme selon le Kama Sutra. La traduction est à nouveau de Michael Edgar. Idéal. Dans ce poème, la Mireille voulait parler de l'amour profond, authentique que l'on peut donner à Jérusalem et non pas de ces gens qui débarquent en charter et en bus, qui passent derrière le frelaté, l'exotique de la ville, sans rien y comprendre de son sacré. D'ailleurs, il y a un poème ironique où il dit la chose suivante sur ces touristes. Un jour, j'étais assis sur les marches près d'une porte à la tour de David. J'avais posé mes deux lourds paniers à mes côtés. Un groupe de touristes entourait leur guide et je devins leur point de repère. Vous voyez cet homme avec les paniers? Juste à droite de sa tête, il y a une voûte datant de l'époque romaine. Juste à droite de sa tête. Mais il s'en va! Il s'en va! Je me suis dit, délivrance ne surviendra que si leur guide, un jour, leur dit « Vous voyez cette voûte datant de l'époque romaine ? Ce n'est pas important, mais à côté, à gauche, un peu vers le bas, un homme est assis qui a acheté des fruits et légumes pour sa famille. » Le recueil s'appelle « Touriste », il est de 1980. Une autre fois, il interpelle Jérusalem ainsi. Je vous en ai juste dit le premier vers, le voici en entier. Parfois, Jérusalem est une ville de couteaux. Même les espoirs de paix sont affûtés pour trancher dans la difficile réalité. Ils s'émoussent ou se cassent. Les cloches des églises font tellement d'efforts de paix qu'elles deviennent lourdes, comme un pilon qui broie dans le mortier des voix lourdes, graves et remuantes. Et lorsque le chantre et le muezzin entonnent leur chant, surgit le cri tranchant. Notre Seigneur, notre Dieu à tous, est un Dieu un et affûté. Je vous ai expliqué que pour comprendre ce poème, il faut savoir que la racine de l'unité veut dire aussi tranchant. Ce poème a été traduit également par Michel Edgar Elial, dont les traductions ne se trouvent hélas pas du tout maintenant en France. Je les ai prises dans une revue merveilleuse qui s'appelle Ariel. Donc Jérusalem, c'était la ville où tous les impossibles pouvaient se réaliser. Ville non pas de foi égoïste, mais ville de partage et de réconciliation. Et Amichai était à lui seul cette ville d'utopie et de tendresse. Des chats qui se souviennent de lui traversent encore les ruelles maintenant. Ils se redisent ses caresses, il adorait caresser les chats, et son sourire. Et ils vont vers un mur, au chaud, attendre le soleil de ses mots qui vont revenir. Car eux, les chats, savent qu'il reviendra. Sans doute, sous une forme de chat, eux le reconnaîtront, se frotteront à lui, comme avant. Sa relation amoureuse avec la ville fut donc passionnelle et fusionnelle, avec les hommes et les animaux aussi. Voilà ce qu'il dit de l'endroit où il habitait. Je peux rester sur mon balcon et dire à mes enfants, juste là, là, je fus bombardé pour la première fois. Et là-bas, juste à droite, juste derrière ces arbres, je reçus mon premier baiser. Amirail est un être simple. Il s'avance sur les chemins si proches de tous. Humble, il était. Poète, il reste. Ses mots sont perçants et doux à la fois. Pas de chevauchée épique dans ses poèmes, mais des formes courtes, des allusions bibliques, et surtout des traces de passage, des passages d'humanité. Voilà ce qu'il dit de sa conception de la poésie. La poésie est un fil rouge tendu depuis les temps bibliques jusqu'à maintenant, tendu pour le peuple juif. Ce fil est ininterrompu, et la poésie est un miroir qui va de la poésie des thèmes religieux aux thèmes nationaux. Il va de la poésie hébraïque ancienne, Shir HaShirim par exemple, le Cantique des Cantiques, jusqu'à la poésie hébraïque contemporaine qui s'est forgée un nouveau langage avec les alluvions de la douleur et de la mémoire. Donc, pour Amichai, la poésie était une part intégrante de la vie. Elle ne pouvait pas en être séparée. Ce n'était pas une poésie de bibliothèque. Sa soif de justice le poussait en avant. Il a dit ces phrases merveilleuses qui a été souvent reprise d'ailleurs, qui dit la chose suivante, on devrait le mettre au fronton de toutes les habitations. Dans un lieu où l'on exige de faire régner à tout prix la justice, jamais ne fleuriront les fleurs. Je vous le redis tellement j'aime cette phrase. Dans un lieu où l'on exige de faire régner à tout prix la justice, jamais ne fleuriront les fleurs. L'œuvre d'Amichai fait à la fois la liaison et aussi le grand écart entre le terreau biblique, d'où surgissent beaucoup de ses métaphores, et la vie courante. Il emploie parfois des mots extrêmement simples, presque vulgaires parfois. Et ce constant écartèlement entre passé, futur et présent. Mais souvent fusion entre le monde biblique et le réel, tout cela marque et modèle et pétrit sa poésie. Sa langue de tous les jours laisse entrevoir des rochers de l'hébreu ancien, comme une mère qui se retire parfois. Il a une ironie mordante et le refus de tout symbolisme ou de tout romantisme. Il a donc une tendance à la litote. Rares sont ses poèmes longs, qui fassent plus d'une page. Je n'ai pas beaucoup trouvé. Il a pris une certaine distance aussi par rapport aux expériences collectives. Une libre observation de la réalité, un style familier. Je vous l'ai dit, Amichai est la vigie de Jérusalem, mais aussi de tout le peuple juif. Il fait également usage des métaphores poétiques. Bien sûr, il a subi des influences, il n'est pas né comme ça. Et les influences qu'il a reçues sont ceux de la poésie moderne, mais de la poésie moderne anglaise et américaine. On peut citer comme cela Dylan Thomas, le gallois, William Howden, l'anglais, Cummings, l'américain, et T.S. Eliot. Cette influence, quand on connaît ces poètes, est manifeste. Et d'ailleurs, il raconte qu'il a découvert ces poètes, surtout Eliot, Howden, Dylan Thomas, un soir quand il veillait près d'un feu dans un campement militaire en Égypte pendant la campagne du Sinaï. Il aime jouer avec les mots. Il adore les détourner de leur sens premier. Et il oppose souvent le sacré et le profane, le scepticisme et la foi, le mystique et l'érotique, le grave et le bouffon. En fait, il réévalue le monde des mots au travers de son monde contemporain. Il passe tout au tamis de la vie immédiate. Il n'est vraiment concentré que pour rendre la condition humaine en son siècle. Le reste lui importe peu. Il la regarde au travers de ses yeux de juif, mais plus encore que de juif d'israélien. Car pour bien comprendre Amichai, il faut connaître un peu la société israélienne. Sinon, on perd une grande partie de ses allusions et de sa dureté. Pour lui, le rôle d'un poète est, j'ouvre la citation, de nommer toute chose, toute émotion, toute expérience, et ceci sobrement et exactement, sans aucune mignardise. Je crois qu'il a parfaitement défini son écriture. Il n'y a vraiment aucune circonvolution, aucune joliesse dans sa poésie. Elle avance rude. C'est presque une lapidation. Elle vous rentre directement sur le visage, sur le front. Elle est en vous immédiatement. En fait, Yehuda Amichai était notre plus proche voisin en émotion. Il était celui du palais d'en face, qui rendait l'espoir parmi la folie meurtrière des hommes. une sorte de grand-père, qui ne faisait pas des traités de sagesse pour homme sage, qui ne priait pas avec des prêches versifiées. Non. Un homme qui savait que la mort revient toujours et gagne toujours. Il se définissait en riant comme un révolutionnaire humaniste. Et plutôt que de demander à le suivre, il voulait que chacun se raffermisse dans sa propre voie. Il se méfiait totalement, il avait horreur des idéologies. Il parle en fait souvent des humbles moments quotidiens, les moments privés, la vie intime de l'homme. Pour avoir fait beaucoup la guerre, il se méfiait et détestait la guerre. Et lui ne parle que d'amour et de paix. Il ne sera jamais un nationaliste. Je vous rappelle les quelques vers que je vous ai déjà lus. Mon seul drapeau, ce sont mes habits. Mon seul hymne est mon souffle. Et le premier et le dernier mot est « ici ». Donc, pas de grande envolée, mais des litotes, des suggestions pour mieux parler aux autres. Parfois, on dirait qu'il écrit comme Henri Michaud, parce qu'il y a un côté fantastique, il y a des surprises, il y a des étonnements, des renversements dans son écriture simple. Mais son lyrisme n'a pas le côté, j'allais dire, égoïste et cynique qu'il y a chez Henri Michaud. Lui, c'est un humaniste, il est généreux. Sa hantise des morts au combat, des déchirures de la mort qui toujours reviennent, font de lui aussi un poète tragique. Mais il y a toujours un humour désespéré. Souvent, il interpelle Dieu dans ses textes, mais c'est presque pour le nier. Voilà comme il se définit. Comme juif athée, existentialiste taoïste, je ne suis pas bien prédisposé envers les discours théologiques. Toute religion orthodoxe, quelle qu'elle soit, avec ses commandements autoritaires, fait monter en moi mon anarchisme intérieur. Voilà qui était à Mirail, et en pleine société israélienne, c'est une prise de position qui n'était pas courante. Voilà d'ailleurs un texte face à Dieu, si vous voulez. Il s'appelle « Dieu plein de piété ». Pitié, pardon. « Dieu plein de pitié, dis la prière des morts. » Si Dieu n'était pas plein de pitié, la pitié aurait été dans le monde, et non seulement enclosée en lui. Moi qui cueille des fleurs sur la colline et baisse mon regard vers toutes les vallées, moi qui descends les cadavres de la colline, je peux vous dire que le monde est totalement vide de pitié. Moi qui fus roi du sel à la mer morte, qui se tenais sans but à ma fenêtre, qui comptais les pas des anges, dont le cœur était soulevé par le poids de l'angoisse dans ces horribles disputes. Moi qui n'utilise qu'une si faible partie des mots du dictionnaire. Moi qui dois déchiffrer des énigmes, je ne veux pas les déchiffrer. Savoir que ce n'est pas à cause du Dieu plein de pitié qu'il y aura de la pitié en ce monde, seulement en lui, je ne veux pas. Ah, Mirail, sans avoir l'esprit messianique, va bien au-delà de son humanisme, j'allais dire terrien, pour accepter finalement une filiation immémoriale avec la transcendance. Il aime faire s'entrechoquer le temporel et l'intemporel, en fait l'éternel. Il veut simplement briser les dogmes, en fait comme Abraham a brisé les idoles. Ce ne sera pas un homme de yeshiva, ce ne sera pas un homme respectant la hiérarchie rabbinique. C'est ce qu'il avait dit, je vous rappelle encore en vers. J'aime vous les rappeler et les répéter pour un peu vous les ancrer dans la mémoire. Je vous l'ai dit au début, c'était la chose suivante. Mon fils a un parfum de paix. Le ventre de sa mère lui a promis ce que Dieu ne peut nous promettre. Amirail est en fait plus profondément ancré dans la géographie de son pays, de ses amours, de son corps, de ses batailles intérieures, dans les contradictions de sa ville, de sa patrie, que dans le sacré. Il y a quand même une dimension prophétique et religieuse qui demeure au fond de ses poèmes, et cet infini respect des lieux saints, qui ne sont plus des pierres, mais aussi une élévation, il le porte. Le cosmique et l'intime affleurent souvent dans ses mots. Souvent, une brosse à dents, qui pour lui est une sentinelle de la mémoire, devient un objet sacré et peut être aussi pleinement qu'une menorah, bougie de lumière éternelle. Donc, il sacralise le quotidien, il désacralise le sacré. Poésie d'un mirage, je vous l'ai dit, elle est simple à lire. Parfois, il y a des métaphores sibyllines qui ne sont pas faciles à rendre. Mais elle est charnelle, avec son poids de vie immédiate, d'enfance, d'amour fou. Il a des admirateurs partout dans le monde. Il est finalement discuté et disputé qu'en Israël, car on a dit de lui, certaines mauvaises langues, bien mauvaises langues, lui ont reproché de n'être qu'un poète pour l'exportation. Car il est simple à traduire, il est vite traduit. Il est tellement traduit. Cela est profondément stupide. Et ces modernismes de la langue hébraïque sont souvent intraduisibles. Donc ce n'est pas, comme on le croit, un peu de drapeau que l'on pouvait mettre dans toutes les poches. Mais il est vrai qu'en anglais, bien plus qu'en allemand d'ailleurs, on peut restituer le rythme et la modernité simple et immédiate. Car Amirai a souci d'être compris, et je vous ai parlé de l'influence profonde des poètes contemporains, anglais ou américains. Mais en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Amirai ? En Israël même en 2005, on lui reproche d'être le poète iconoclaste de l'Israël d'aujourd'hui, de ne pas vouloir être le béni-oui-oui poétique et littéraire, d'être en fait le non-conformiste absolu. Et il l'est. Car lui, il met en parallèle, je vous l'ai dit, une brosse à dents et une menorah, Dieu et le pauvre garagiste du coin. Pour lui, tout doit être lucidement débattu, tout doit passer par le filtre de la raison. Voici un poème assez admirable, dont le titre est « Dieu prend pitié dans le jardin d'enfants ». Dieu prend pitié dans le jardin d'enfants, moins pour les écoliers. Pour les adultes, il ne prendra jamais plus, jamais pitié. Il les abandonne seuls. Parfois, ils doivent se traîner à quatre pattes dans le sable en flammes pour aller vers le premier poste de secours, ruisselant de sang. Sans doute, il aura pitié et projettera son ombre sur ceux qui vraiment aiment, comme un arbre sur quelqu'un dormant sur un banc, sur le boulevard. Sans doute, nous aussi, nous étendrons sur eux les dernières pièces de faveur que notre mère nous légua. Ainsi, leur félicité nous protégera, maintenant et dans les autres jours. La Mirai fait allusion à une prière. Ces poèmes d'amour du quotidien sur la guerre qui est toujours une boucherie, qui toujours tue, veut parler du mal qui règne sur elle et sur le bien que l'on devrait pouvoir refaire renaître. Il a une critique lucide de sa patrie. Et quand il nous parle profondément. On n'oublie jamais un poème d'Amirai une fois qu'on l'a lu. Il sait aussi parler d'amour. Voici un des plus beaux poèmes d'amour que je connaisse, qui est de 1978 et que je me dis souvent. S'appelle « Pose ta tête sur mon épaule ». Pose ta tête sur mon épaule, car mon épaule sait des choses que ta tête n'ose imaginer. Et que ta bouche ne peut dire, le destin le dit. Que l'un de nous doit être le vent, l'autre un arbre dans le vent. Ou un arbre dans un jour sans vent, le destin le dit. Ta naissance pendant la guerre annonce ma fin. La fin sera tienne ce jour. Combien de temps vont-ils poser sur nous des pactes d'angoisse, des traités de désespoir ? Laisse-moi l'exprimer ainsi. Le temps ne se suffit pas pour être. Deux ensemble, deux fois. Pour une seule durée de vie. Laisse-moi l'exprimer ainsi. Même cette tendresse, même ce cœur limité n'est rien qu'une épaule. Repose-toi. Repose-toi pour cela. Donc Amirai, pour moi du moins, est de l'envergure des plus grands poètes de son siècle. Son ami le plus proche, qui le voyait quotidiennement, parce qu'il habitait aussi pas loin, à Jérusalem. Cet ami, je vous en ai parlé une fois, c'était Aaron Appelfeld. L'admirait profondément. Il voyait en lui un homme juste, tranchant, simple. Et Amirail, homme juste, poète juste, laisse une belle trace dans les sillons de la vérité. Ainsi, comme il l'écrivait, des hommes avancent sur terre, debout ou courbés, vus comme une tente ou écrasés par le deuil, la tête baissée comme un coupable, ou la tête haute manifestant contre la mort ou les yeux fermés. Lui nous aura dit de marcher tête haute. Lui aura frôlé la grâce. Avant de vous faire des lectures de poèmes, je vais vous dire un peu la profession de foi. Je suis un fanatique de la paix. Un meurtrier, noir, aux yeux bleus, massacre des cheveux bouclés, des cheveux droits dévastés, détruisent des peaux noires, découpe bien ma chair. Un autre parcellise mon sang. Seul, ceux, sans couleur, seuls le transparent sont bons. Ils me laissent dormir, sans terreur, la nuit. Je regarde au travers d'eux pour voir le ciel. Poème d'abord. Un assez récent, 1980, qui s'appelle Un berger arabe. Un berger arabe cherche sa chèvre sur le mont Sion. Sur le côté opposé de la montagne, je suis à la recherche de mon petit garçon. Un berger arabe et un père juif. Tous deux dans leur perte provisoire. Après nous les trouvâmes au milieu des buissons. Et nous voir revinrent en nous, riant et pleurant, chercher après une chèvre ou un fils a toujours été le commencement d'une nouvelle religion dans ces montagnes. Maintenant, des grands poèmes de Mirail, qui s'appellent « Poèmes provisoires de mon temps ». L'écriture hébraïque et l'écriture arabe s'écrivent de l'est à l'ouest. L'écriture latine de l'ouest à l'est. Les langages sont comme des chats. Vous ne devez pas caresser leurs poils dans le mauvais sens. Les nuages viennent de la mer, le vent chaud du désert, les arbres se courbent sous le vent et les pierres volent de tous les quatre vents. Dans les quatre vents. Ils lancent des pierres, ils jettent la terre l'un sur l'autre, mais la terre toujours retombe sur la terre. Ils jettent la terre, voulant s'en défaire, sa pierre, son sol, mais vous ne pouvez pas vous en défaire. Ils jettent des pierres sur moi, en 1936, 1938, 1948, 1988. Des sémites caillassent des sémites, et des antisémites. L'homme diabolique jette, et l'homme juste jette. Des pêcheurs jettent, et des tentateurs jettent. Des géologistes jettent, et des théologistes jettent. Des archéologues jettent, et des voyous d'archéologie jettent. Les reins jettent, et des vésicules biliaires jettent. Des pierres pour la tête et des pierres pour le front et le cœur dans une pierre, pierres modelées en bouche hurlante et des pierres s'encastrent dans vos yeux comme une paire de lunettes. Le passé jette des pierres au futur et tout cela tombe dans le présent. Des pierres en larmes et des graviers riants. Mais Dieu dans la Bible jetait des pierres. Même la révélation et la vérité sont jetées et se figent dans la nature bestiale du plateau de la justice. Et Hérode jetait des pierres en ce qui en sortit fut un temple. Oh, le poème de la tristesse des pierres. Oh, le poème jeté sur les pierres. Oh, le poème sorti des pierres jetées. Y a-t-il sur cette terre une pierre qui ne fut jamais jetée, jamais construite, jamais retournée, et jamais hurlée hors d'un mur jamais écarté par les bâtisseurs, jamais scellé au sommet d'une tombe, jamais posé sur les amis heureux, et jamais détourné en pierre angulaire. S'il vous plaît, ne jetez plus une seule pierre encore. Faites remuer ma terre, la sainte, entière, l'ouverte terre. Vous la remuez vers la mer et la mer ne le veut pas. La mer dit, pas en moi. S'il vous plaît, jetez de petites pierres, jetez des fossiles de serpents, jetez du gravier, justice ou injustice des carrières du Migdal Tzedek, jetez des pierres tendres, jetez de doux objets, jetez de la craie, jetez de l'argile, jetez du sable sur le rivage de la mer, jetez de la poussière du désert, jetez de la rouille, jetez du sol, jetez du vent, jetez de l'air, jetez du rien, jusqu'à ce que vos mains soient fatiguées, et la guerre fatiguée, et même la paix sera fatiguée, et sera. Un poème de 1966 qui s'appelle « L'homme mort dans un champ ». Son sang avait été jeté dehors en vitesse, sans précaution, comme les vêtements de quelqu'un trop fatigué pour se disputer. Ô combien la nuit avait poussé. Fenêtre était à peu près en état, comme mes parents quand j'étais un enfant. Des vents ascétiques faisaient une profession solennelle, tête courbée dans les collines. Des mères ou des clercs de l'armée ou des Nations Unies mesurent la distance du vivant à la mort, avec des rapporteurs et des compas, des règles miniatures, avec des paquets de cigarettes, avec des sentiments très sincères, avec des espoirs aigus et un chien de chasse. Quatre poèmes sur la guerre et la paix. A. Dans un petit jardin, pas loin de ma maison, il y a une table de marbre avec le nom des soldats morts gravé dessus, écrit clairement et dans l'ordre, l'un après l'autre, comme une liste de locataires à l'entrée d'un immeuble, large et vide. Poème B. Je pense à cet homme roux qui est tombé ici, et à sa femme à la voix de Husky. Je pense à la femme à la voix de Husky et à l'homme qui mourut il y a des années. Je pense comment cette femme à la voix de Husky est devenue maintenant une femme calme. La véritable monstruosité, c'est ceux qui sont morts à la guerre. Contre cela, il n'y a pas de protestation possible. Poème C. Une fois, une bombe a explosé près d'une boucherie. La viande abattue fut encore une fois abattue. Et encore une fois, mais cela ne blessera plus personne. Il n'y a presque plus de sang. Poème D, que je vous avais lu. Je suis un fanatique de la paix. Un meurtrier noir aux yeux bleus massacre des cheveux bouclés. Des cheveux droits dévastés détruisent des peaux noires, des coupes bien ma chair. Un autre parcellise mon sang. Seul, ce sans couleur, seul le transparent sont bons. Ils me laissent dormir sans terreur la nuit. Et je regarde au travers d'eux pour voir enfin le ciel. De 86 s'appelle « Nous les aimions ». Durant les longues nuits, notre chambre était isolée, scellée, comme un tombeau dans une pyramide. Au-dessus de nous, un silence étranger, comme sable en pile depuis des temps immémoriaux devant notre lit. Et quand nos corps gisaient tirés dans leur sommeil, par-dessus les murs, encore, étaient croqués les derniers salaires que nos âmes patientes devaient encore garder. Les voyez-vous maintenant ? Un bateau étroit dérive dans le passé. Deux visages se tiennent à bord, d'autres s'alignent. Et des étoiles percent, des étoiles de vies différentes, sont emportés par le Nil du temps plus bas. Comme deux momies, nous avons été serrés fort dans les bandelettes de l'amour. Et après bien des siècles, quand le crépuscule tombe, un archéologue de bonne humeur, avec une lumière. De 1968, quelle pitié. Nous étions une si belle invention. Ils avaient amputé vos cuisses de mes hanches. Si tant est que je sois concerné, il me semble qu'ils étaient tous des médecins, tous. Ils nous ont démantelés. Si tant est que je sois concerné, ils sont tous des ingénieurs, tous. Quelle pitié! Nous étions une si adorable invention. Un avion fait d'un homme et d'une femme, des ailes et le tout. Nous planions au-dessus de la terre. Même nous avions volé un peu. Le poème s'appelle « La première pluie ».
La première pluie.
La première pluie tant me rappelle la poussière montante de l'été. La pluie ne se souvient pas de la pluie de l'année dernière. Une année n'est qu'un animal dressé sans aucune mémoire. Bientôt, vous porterez à nouveau votre harnais, magnifique et brodé, des baffins à porter. Votre jument et votre harnais ne font plus qu'un. Panique blême de la tendre viande dans la panique de la vision soudaine des seins antiques. Un poème, cette fois-ci traduit par Colette Salem, qui est une grande traductrice également de d'Agnone et d'autres. Ça s'appelle « À mon retour ». Mon retour. Je ne serai pas accueilli à mon retour par des voix enfantines, l'aboiement d'un chien fidèle ou une fumée bleuâtre, comme dans les légendes. Ce n'est pas moi qui, levant les yeux, comme il est dit dans la Bible, verrai que voici un bélier. J'ai passé la frontière de l'état orphelin. Et depuis longtemps, on ne m'appelle plus soldat démobilisé. Je ne suis plus protégé. J'ai inventé les pleurs secs. Et celui qui a inventé les pleurs secs en ce monde a inventé le début de la fin du monde, la fêlure, la ruine et la faim. Je reviens à mes traductions maintenant. Résurrection. Poème de 1986. Ils se lèveront tous ensemble avec un son de chaise déchirée. Ils feront face à l'étroite sortie et le vêtement bien froissé et couvert de poussière et de cendres de cigarettes. Et leurs vêtements seront froissés. Et leurs mains découvrent dans la poche intérieure un bout de ticket d'un temps très ancien. Leurs figures sont encore crucifiées par la volonté de Dieu. Et leurs yeux sont rouges de tant de manque de sommeil sous terre. Et soudain, questionnement. Quelle heure est-il ? Où ? Avez-vous mis les mines ? Quand ? Quand ? L'un d'eux, peut-être scrutant le ciel pour voir s'il pleut. Ou une femme, avec des gestes de vieux, frotte ses yeux et remonte la lourde écoute au derrière de son cou. Quelle sorte de personne ? Quelle sorte de personne êtes-vous donc ? Je les entends me demander cela. Je suis une personne avec une âme à la tuyauterie complexe, des outils sophistiqués pour ressentir, et un système de mémoire contrôlé de la fin du XXe siècle. Mais avec un vieux corps des temps anciens, et avec un Dieu encore plus vieux que mon corps. Je suis une personne pour la surface de la Terre. Les lieux bas, les caves et les fossés me font peur. Les pics des montagnes et les grands buildings me terrifient. Je ne suis pas comme une fourchette insérée, non plus un couteau tranchant, non plus une cuillère figée. Je ne suis pas plat et furtif, comme une spatule rampant de haut en bas. Tout au plus, je suis un lourd et maladroit pilon, écrasant le bien et le mal ensemble, pour un peu de goût et un peu de parfum. Les flèches ne me dirigent pas. Je conduis mon commerce prudemment et calmement, comme une grande volonté qui commence à être écrite depuis l'instant où je suis né. Maintenant, je suis debout, du côté de la rue, là, accoudé à un parc-mètre. Je peux rester là pour rien, libre. Je ne suis pas une voiture, je suis une personne, un homme, Dieu, un Dieu homme dont les jours sont comptés. Alléluia. Sonnet de 1968. Les lèvres de la mort, jadis, pleine d'inconséquences, murmure un seul mot à la terre. Et chaque arbre, maintenant, disproportionné à exagérer sa naissance printanière. La terre la serre à nouveau ses bandages. Elle ne veut point guérir. Elle veut de la douleur. Le printemps n'est pas la paix. Ce n'est point le repos. Le printemps est un territoire ennemi. Tous, nous pouvions atteindre ce but. Les jeunes amoureux pourraient à une seule patrouille. Dorénavant, nous étions envoyés en pays de l'arc-en-ciel. Quoi que nous savions, la mort revient. Quoi que nous savions, la tempête est née sortie de l'ouverture d'une jeune fille. C'est sur ce dernier sonnet que je vais peut-être vous laisser. Il y aurait tant de temps à lire encore sur Yehuda Mihai. Peut-être juste un extrait d'un poème qui s'appelle « Je veux mourir dans mon propre lit », très rapidement. Chaque nuit, l'armée vient de Gilgal pour aller vers le champ de la mort. Et cela est assez. Dans le sol, trame et trace, gît la mort. Je veux mourir dans mon propre lit, comme des fissures sur un char. Les yeux étaient bizarres. Je suis toujours le peu, eux sont le beaucoup. Je dois répondre. Ils peuvent interroger ma tête. Je veux mourir dans mon propre lit. Soleil se lève toujours sur Gibeon. Aussi pour toujours, il veut illuminer ses champs de guerre et de meurtre. Sans doute ne verrai-je pas ma femme quand elle perdra son sang. Mais je veux mourir dans mon propre lit. Samson, sa force dans son longue et noire chevelure. Ma chevelure, ils me l'ont tondue quand ils me firent héros. Héros de force, ils m'apprirent à charger de l'avant. Je veux mourir dans mon propre lit. J'ai vu que vous pouviez vivre et vous sustenter avec compassion, même dans la tanière d'un lion. Si vous n'aviez pas d'autre endroit, jamais je n'avais imaginé de mourir seul, d'être mort. Mais je veux mourir dans mon propre lit. Voilà, il est temps de vous quitter. J'espère vous avoir donné envie de lire ce poète prodigieux, étrange et si contemporain qui s'appelait Yehuda Mihai. Un seul livre à vous conseiller, l'anthologie personnelle Actes Sud. Par contre, Yehuda Mihai est traduit dans plus de 50 langues. Amis auditeurs, au revoir.
Moi de nuit,